Certaines personnes un peu macho sur les bords pensent encore qu'un homme viril, c'est comme un taureau, ça ne pleure pas. Mais qu'à cela ne tienne, Alfred de Musset a écrit des poèmes magnifiques où, avec des mots simples, il exprime des sentiments très humains. Dans la nuit d'octobre, il écrit « Les moissons pour mûrir ont besoin de rosée. Pour vivre et pour sentir, l'homme a besoin des pleurs. » Et dans l'île mystérieuse, Jules Verne dit « Te voilà donc redevenu homme, puisque tu pleures. » Les évangiles rapportent un seul événement où il est explicitement écrit que Jésus a pleuré, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres. Le Seigneur se trouvait alors à l'entrée du village où habitait une famille à laquelle il était très attaché. Elle se composait de deux sœurs et de Lazare, leur frère qui venait juste d'être enterré. Le texte dit « Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? » demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Fin de citation. Un autre passage des évangiles rapporte que Jésus s'est lamenté sur la ville de Jérusalem sans pourtant préciser s'il a également pleuré. À cette occasion, il a dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Enfin, à la veille de son exécution, il est allé prier dans le jardin de Gethsémané, et le texte dit alors que l'angoisse le saisit, sa prière se fit de plus en plus pressante, sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il était profondément accablé et a connu une angoisse inimaginable parce qu'il savait que le lendemain, il devait porter et expier les péchés du monde sur la croix. En fait, on ne peut pas se représenter ce que cela signifiait pour lui qui était saint d'être noirci de cette façon. Il a crié et probablement aussi pleuré. Je continue à lire dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Ainsi, alors qu'il avait un corps de chair, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le tirer de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Ainsi, alors qu'il avait un corps de chair, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le tirer de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Verset 7. Jésus ressentait les joies et les peines comme vous et moi. À cet égard, il n'y avait aucune différence entre lui, pourtant le Fils de Dieu, et n'importe quel Israélite. L'agonie de Jésus, qui est ici décrite, correspond à ce qu'il a vécu soit dans le jardin de Gethsémané, soit sur la croix. Cette détresse exprime toute l'étendue de son humanité. En tant que seconde personne de la Trinité, Jésus savait depuis toujours ce qu'il attendait, mais il l'a appris d'une façon entièrement nouvelle en l'expérimentant dans un corps d'homme. Alors qu'ici il est dit que Jésus a présenté des prières et des supplications. Au début de ce même chapitre, il est écrit que tout grand prêtre est chargé de présenter à Dieu des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Or, dans les deux cas, l'auteur utilise le même verbe qui est traduit par « présenter ». Il veut montrer par là que lorsque Jésus a présenté des prières et des supplications à Dieu, son Père, il était dans la même situation que le grand prêtre juif quand il fait des offrandes et sacrifices pour les péchés sur l'autel des holocaustes qui était situé à l'entrée du sanctuaire. Il semble donc que lorsque Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications, il était sur la croix en tant que sacrifice et grand prêtre qui l'offre. dans un psaume qui prophétise les conditions dans lesquelles le Messie mourrait, il est écrit « Car l'Éternel n'a point méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé, il ne lui a point caché sa face, mais il l'a exaucé quand il criait vers lui. » Or, quand on lit ce même verset dans l'ancienne traduction grecque appelée la Septante, on se rend compte que l'auteur s'en est fortement inspiré. Il ne fait donc guère de doute que lorsqu'il a écrit ce passage, il avait à l'esprit l'agonie de Jésus sur la croix, et ses cris et ses larmes sont directement liés à son sacrifice, qui dans l'économie divine était nécessaire pour l'expiation des péchés du monde. La croix était un autel sur lequel le Fils de Dieu a versé son sang afin de payer pour toutes les fautes de tous les êtres humains de tous les temps, et en particulier les miennes et les vôtres. Par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, l'Éternel avait dit aux Israélites « Le sang, c'est la vie de toute créature, et moi, je vous l'ai donné afin qu'il serve à accomplir sur l'autel le rite d'expiation pour votre vie. En effet, c'est parce qu'il représente la vie que le sang sert d'expiation. » Fin de citation. C'est Dieu qui a décidé qu'il en serait ainsi, et il ne nous donne pas d'autres explications que celle-là. Sous la loi, le sang des animaux sacrifiés n'ôtait pas les péchés, mais les couvrait seulement afin que l'Éternel ne les voie pas. Par contre, le sang de Jésus les efface complètement. Si Jésus a présenté des prières et des supplications à Dieu, ce n'était pas afin qu'il soit épargné, puisque la raison principale de sa venue sur terre était de mourir, ce qu'il affirme lui-même quand il dit « À présent, je suis troublé. Que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. » Ce que Jésus demandait, alors qu'il se trouvait sur la croix, était de ne pas rester enfermé dans la mort, mais d'en être tiré, ce que le grec montre très bien dans le choix des mots. Dans cette prière, ce que Jésus demande à Dieu est donc de le ressusciter, ce qui d'ailleurs avait été prophétisé. Je lis un passage. « Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. » Fin de citation. L'auteur écrit que Jésus a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Le mot traduit par « soumission à Dieu » est souvent rendu par « piété » et veut aussi dire « respect révérentiel ». Jésus a reconnu la souveraineté de Dieu et s'est soumis à lui. Je continue le texte. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Verset 8. Comme Jésus-Christ était sans péché, c'est forcément sans désobéissance qu'il a appris à obéir. Cet apprentissage a surtout consisté à s'humilier en acceptant de souffrir au travers des différentes épreuves qu'il a dû endurer pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu à son égard et pour l'humanité. Il faut bien reconnaître que nous ne pouvons pas pleinement comprendre tout ce que l'incarnation représentait pour Jésus et qu'il existe une part de mystère dans cet apprentissage de l'obéissance par la souffrance qu'il a dû subir. Pareillement, on est perplexe quand on lit dans l'Évangile qu'adolescent, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pourtant, en tant que fils de Dieu, Jésus a toujours été infiniment sage et sa connaissance en toutes choses était illimitée et parfaite. C'est vrai. Seulement, en partageant notre condition humaine, il a montré aux hommes son humilité et son obéissance au Père et il a connu, dans sa chair, les sentiments et les souffrances qui font notre vie. Je lis un passage. « Il s'est dépouillé lui-même. » Et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Il faut que je vous dise que Quand, pour moi, sonnera l'heure du grand départ, ce ne sera pas de gaieté de cœur, même si, comme le dit l'apôtre Paul, pour moi la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. Je veux vivre sur cette terre aussi longtemps que possible, parce que c'est une expérience unique qui ne se reproduira plus jamais. Jésus ne s'est pas identifié à nous pour acquérir une connaissance supplémentaire, mais afin qu'il puisse s'identifier à moi, que je me sente proche de lui et que j'aille à lui en toute confiance. En devenant homme, Jésus a partagé nos expériences, ce qu'il ne pouvait pas faire en tant qu'esprit et seconde personne de la Trinité. De plus, il est désormais différent de ce qu'il était avant l'incarnation, puisque depuis sa résurrection, il a une apparence humaine et porte les marques des clous et de la lance qui l'ont percé. Et puis, et comme cela a déjà été dit, il a pu devenir le grand prêtre compatissant dont nous avons besoin. En effet, ceux qui ont connu le même genre de détresse se regroupent souvent ensemble parce que, ayant souffert la même tragédie, ils se reconnaissent les uns dans les autres et sont donc mieux aptes à pouvoir se soutenir. Je peux certes essayer de comprendre la souffrance d'un père qui a perdu son enfant, mais je resterai hors circuit, un spectateur, tant que je n'aurai pas fait moi-même cette cruelle expérience. Comme Jésus a souffert à l'extrême, il peut comprendre n'importe quelle douleur que vous et moi lui apportons. Il a été façonné par la souffrance afin de devenir le grand prêtre parfait, celui qui peut compatir avec moi au travers de toutes mes épreuves. Je continue maintenant le texte. Et c'est parce que Jésus a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Verset 9. Le fait que Jésus a été amené à la perfection ne signifie pas qu'il se soit amélioré en cours de route, puisque déjà de toute éternité, il était parfait en matière de justice, sainteté, sagesse, connaissance et de toute vertu ou capacité. Parce que, malgré toutes ses souffrances, Jésus a toujours été obéissant, il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu et a donc pu mourir à la place de ceux qui étaient coupables en prenant sur lui leur châtiment. En second lieu, dans son humanité, il a rempli les conditions requises pour devenir le grand prêtre, éternel, digne de confiance, solidaire de ceux qu'il représente et pour qui il intercède. Cela dit, il existe de grandes différences entre Jésus et les grands prêtres juifs qui l'ont précédé, à commencer par le fait que le Fils de Dieu était à la fois l'officiant et l'offrande. De plus, il n'a pas eu à offrir de sacrifice pour lui-même, puisqu'il était sans péché. Ensuite, son sacrifice était parfait et unique, et donc n'avait jamais besoin d'être répété. Alors que les sacrifices d'animaux permettaient un pardon temporaire et incomplet, par son sacrifice, Jésus accorde à tous ceux qui croient en lui un pardon total, définitif et donc le salut éternel. Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Cette obéissance ne concerne pas l'observation de commandements, mais plutôt de la foi dans le sens où l'entend l'apôtre Paul quand il dit « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener au nom de Jésus-Christ tous les païens à l'obéissance de la foi. » Et ailleurs, Paul déclare que Dieu punira tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Un jour, des gens de la foule qui suivaient Jésus lui ont demandé « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. L'œuvre de Dieu et l'obéissance de la foi, c'est donc croire en Jésus. L'auteur a bien soin de préciser que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel dans la ligne de Melchisédek, parce que son sacerdoce était perpétuel et non transmissible, alors que celui d'Aaron, le premier grand prêtre sous la loi, se transmettait d'une génération à l'autre, tout en étant provisoire, puisqu'il a pris fin avec la venue de Jésus-Christ, le grand prêtre parfait. L'Éternel avait attribué à Melchisédek une prêtrise qui lui était propre, qui ne concernait que lui et qu'il ne pouvait transmettre ni à son fils ni à quelqu'un d'autre. Dans ce sens, ce personnage mystérieux était un type, un exemple, une figure, un modèle qui annonçait le grand prêtre parfait et éternel qui donne à ceux qui croient en lui un salut également parfait et éternel. Je continue le texte. Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel dans la ligne de Melchisédek, mais c'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. Verset 11. Ici débute le troisième avertissement de l'Épître, qui est une sorte de parenthèse avant que ne commence au chapitre 7 le discours long et complexe concernant Melchisédek. L'Épître aux Hébreux contient plusieurs avertissements. Ils sont adressés aux Juifs qui sont convaincus que Jésus-Christ est le Messie et le Sauveur, mais qui hésitent encore à prendre une décision ferme et définitive à son égard, ou bien à des Hébreux qui ont fait une profession de foi à la légère et qui maintenant sont tentés de retourner au temple de Jérusalem et de renouer avec le judaïsme. Le plus souvent, c'était à cause de la pression sociale que les autres Juifs exerçaient sur eux. Dans le Nouveau Testament, on trouve de très nombreux passages adressés aux croyants qui manquent de maturité afin de les exhorter à grandir dans la foi. L'apôtre Paul compare même certains d'entre eux à des nourrissons incrédules qui ont besoin d'acquérir une pleine connaissance des vérités spirituelles et bien sûr de les mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Ici par contre, et c'est important à noter, l'auteur n'a pas en vue des croyants immatures, mais des non-croyants juifs, et son avertissement porte sur leur immaturité spirituelle, mais au sens très large du mot. Il s'adresse à des Hébreux qui, pour une raison ou pour une autre, sont encore embourbés dans l'ancienne alliance et il les pousse à prendre un tournant décisif, à un changement radical, à abandonner complètement la loi de Moïse et ses préceptes pour suivre Jésus-Christ. L'auteur va les avertir du péril qu'ils courent en restant accrochés aux éléments de vérité et aux promesses de l'ancienne alliance, alors qu'elle a été supplantée par la nouvelle en Jésus-Christ. Il va souligner les dangers de ne pas s'approprier la vie éternelle qui ne s'obtient que par la foi en Jésus. Ces Hébreux sont à l'entrée du royaume céleste, mais encore dehors. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur établit plusieurs fois des comparaisons et des contrastes entre la foi de l'Ancien Testament et celle en Jésus, et son message central est toujours la supériorité de la Nouvelle Alliance sur l'Ancienne, la supériorité du christianisme sur le judaïsme. Pour ce faire, l'auteur oppose l'ombre à la substance, l'image à la réalité, le visible à l'invisible, la copie à l'original, et le juif traditionnel à celui qui a la foi en Jésus. Il montre que toutes les images et cérémonies liées à la loi de Moïse annonçaient Jésus-Christ et trouvent leur accomplissement en lui. Avant que les Hébreux ne soient capables de comprendre la similitude entre le sacerdoce de Jésus et celui de Melchisédek, ils doivent faire de gros progrès dans leur compréhension spirituelle. En effet, et selon ce que l'apôtre Paul écrit, l'homme ordinaire n'accepte pas les vérités qu'enseigne l'Esprit de Dieu, car à ses yeux, elles sont une pure folie, et il ne peut pas les comprendre parce qu'il faut du discernement spirituel pour les saisir. Je me souviens qu'en classe de troisième, j'étais traumatisé parce que le prof de physique-chimie nous insultait sans arrêt. Il nous traitait de larves, et à chaque cours ou presque, il nous appelait collectivement « bande de veaux », une façon de nous reprocher notre léthargie intellectuelle, je suppose. Ici, l'auteur critique ses lecteurs pour leur léthargie spirituelle, pour leur manque d'intérêt concernant les vérités célestes, parce qu'ils sont devenus lents à comprendre. Plus exactement, il dit « Vous êtes devenus des gens qu'on ne peut pas pousser concernant l'entendement. » À l'époque, c'était une façon de dire de quelqu'un qu'il était obtus ou un peu taré sur les bords, c'est-à-dire intellectuellement déficient. Le problème avec ces Hébreux est qu'ils n'ont pas toujours été durs d'entendement. En effet, l'auteur semble dire qu'il fut un temps où ils étaient sérieusement intéressés par la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Au début, quand ils ont entendu la bonne nouvelle, c'était de véritables éponges avides d'en savoir plus sur Jésus. Alors ils n'étaient pas du tout lents à comprendre, mais le sont progressivement devenus parce qu'ils ont négligé de prendre une décision ferme pour Jésus-Christ. Plus loin, l'auteur s'adresse à eux quand il parle de ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir. À un certain moment, ces Hébreux étaient ouverts, prêts à recevoir la vie éternelle, mais maintenant ils ont sombré dans une apathie spirituelle alarmante. Les gens qui sont lents à comprendre sont difficiles à enseigner. Ces Hébreux sont spirituellement endormis du fait de leur indifférence et de leur manque d'intérêt pour les vérités de Dieu. Alors, l'auteur veut leur secouer les puces afin d'éveiller leur sensibilité spirituelle pour qu'ils comprennent l'importance de la nouvelle alliance et sa supériorité sur l'ancienne. Aujourd'hui aussi, on trouve des gens comme ces Hébreux. Ils sont enthousiastes quand ils entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ne font rien. Ils semblent pourtant comprendre comment recevoir la vie éternelle, mais négligent de prendre une décision franche pour Jésus, et finalement, avec le temps, ils deviennent léthargiques, indifférents à son égard. C'est très grave parce que Jésus a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse ».